Cette doxologie C'est la grande plainte de ça. Et sa doxologie s'ajoute à toutes celles des lettres apostoliques qui vont pratiquement toutes dans le même sens. Alors, à la fin de notre culte, je souhaite que nous puissions adresser à Dieu une bénédiction semblable qui signifiera notre joie d'être en sa présence. Alors, soyez donc les bienvenus, malgré tous les soucis que je viens d'avoir avec la technique, évidemment, mais soyez les bienvenus pour vivre comme les destinataires de l'épître de Jude avec une telle bénédiction. Hein, ne soyez pas en peine, si bien des questions se posent, restent sans réponse. De toutes les manières, je crois que la parole s'adresse à tous, quelle que soit leur appartenance. Alors venez donc avec la fraîcheur des catéchumènes, de certains d'entre eux au moins, qui ont dit ceci comme confession de foi, et je vous la livre parce que je trouve qu'elle est assez sympathique. Dieu, c'est comme la source, Jésus et sa parole, c'est comme l'eau vive, et l'Esprit Saint, c'est ce qui rafraîchit. Voilà. Et puis, il y a, dans le même genre, il y en a une autre confession de foi que les jeunes connaissent aussi, au moins certains d'entre eux. Dieu, c'est comme le soleil. Jésus, c'est comme le rayon de soleil, et l'Esprit Saint, c'est comme la chaleur qui nous réchauffe. Voilà. Double confession de foi qui est pleine de jeunesse, finalement, que je vous invite à prier Dieu. Voilà, Père, nous invoquons ton nom et nous invoquons ta parole, qu'elle soit sur nous et qu'elle soit pour nous, un peu comme la fraîcheur de ce torrent ou la chaleur de ce soleil qui viennent d'être invoqués là à l'instant. Ouvre nos cœurs à ta parole, Père, pour que nous puissions en vivre en plénitude. Amen. Avant de lire la parole, le témoignage de la parole, je vous invite à me répondre à cette question. Soyez bien attentifs, est-ce que vous m'entendez bien?
Alors, il faut laisser le temps de répondre.
Ouais.
Oui.
Oui. Pendant que je cherche.
Oui, on s'entend.
Oui, il y a pas de souci.
Oui, il y a des réponses positives.
Bon, alors s'il y a des réponses positives, nous allons continuer à la lecture de la Bible. Je suis désolé hein, pour tout ce qui arrive. C'est articulé au maximum. On va faire un petit tour dans l'Ancien Testament et à la rencontre du prophète Ésaïe au chapitre 42, les versets 1 à 7. C'est un passage connu, c'est un des poèmes du serviteur. Il y en a trois chez Ésaïe principaux. Il y en a en Ésaïe 53 qui est le plus grand, le plus célèbre peut-être. Et puis il y en a un troisième qui célèbre le serviteur en la personne de Cyrus, le prince qui a libéré les Hébreux de l'exil. Donc voici le chapitre 42. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai moi-même en faveur. J'ai mis mon esprit sur lui. Pour les nations, il fera paraître le jugement. Il ne criera pas, il n'élèvera pas le ton, il ne fera pas entendre dans la rue sa clameur. Il ne brisera pas le roseau ployé, il n'éteindra pas la mèche qui s'étiole, à coup sûr il fera paraître le jugement. Lui ne s'étiolera pas, lui ne ploiera pas, jusqu'à ce qu'il ait imposé sur la terre le jugement, et les îles seront dans l'attente de ses directives. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui a créé les cieux et qui les a tendus, qui a étalé la terre porteuse de ses rejetons, donner respiration à la multitude qui la couvre et souffle à ceux qui la parcourent. C'est moi le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai tenu par la main, je t'ai mis en réserve et je t'ai destiné à être l'alliance du peuple, à être la lumière des nations, à ouvrir les yeux aveuglés, à tirer du cachot le prisonnier de la maison d'arrêt des habitants des ténèbres. » Voilà, donc c'était Ésaïe 42, versets 1 à 7. Et puis dans la Nouvelle Alliance, dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, deux passages qui sont aussi extrêmement célèbres. Tout d'abord au chapitre 3, voici ce que Paul écrit. Notre lettre, c'est vous. Lettre écrite dans nos cœurs, connu et lu par tous les hommes. De toute évidence, vous êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons grâce au Christ devant Dieu. Ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions mettre à notre compte, c'est de Dieu que vient notre capacité. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Et un peu plus loin, dans la même épître, alors Paul vient de dire tout ce qui est la, tout ce qu'il a vécu un petit peu, et surtout dans la difficulté. Et voici ce qu'il dit donc au chapitre 12, les versets 7b suivants. Il a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan chargé de me frapper pour m'éviter tout orgueil. À ce sujet, par trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Aussi mettrai-je mon orgueil bien plus tôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Donc je me complais dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les angoisses pour Christ. » Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Père, ta parole et vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Voilà, on va revenir sur ces textes, évidemment. J'espère que vous les connaissez un petit peu. Ça a réveillé quelques souvenirs en vous. Ceux du serviteur souffrant sont tout à fait fabuleux dans le livre d'Ésaïe, hein, qu'on appelle souvent l'évangile de l'Ancien Testament, pour quelques raisons, évidemment. Quant à ces deux passages de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, je crois qu'ils ont fait le tour du monde. La lettre tue, mais l'esprit fait vivre, évidemment, et la force dans la faiblesse, tout cela mérite qu'on s'arrête un petit peu au minimum sur ces réflexions de l'apôtre. Voilà. Alors, Paul est allé à Corinthe déjà lorsqu'il écrit cette deuxième lettre. Corinthe, c'est une ville paroisse, on peut dire, qu'il aime particulièrement parce que s'il ne l'a pas fondée véritablement, il a au moins organisé la paroisse. Il en est vraiment tout à fait à l'origine. Voilà, et donc il va y revenir dans l'année 56-57 à peu près, un ou deux ans près, et il écrit à cette communauté corinthienne à la suite d'un double problème. Il montre que les problèmes dans l'Église ne datent pas d'hier, mais vraiment depuis l'origine. Alors, il y a d'abord un problème personnel que Paul subit, et il y a une offense. C'est une offense dont il parle peu, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit véritablement, mais dans tous les cas, dans la lettre, il pardonne cette offense. Je crois que c'est tout à fait important de le souligner. Évidemment, sans quoi on se demande où serait le christianisme, parce que si Dieu pardonne, évidemment, ça implique que nous ayons aussi le pardon rivé au corps, si je puis dire. Donc, Paul pardonne cette offense dans sa lettre aux Corinthiens, mais aussi il répond au problème de son ministère qui est remis en cause. Donc il va raconter un petit peu tout ce qu'il a subi au long de son ministère, ce qui est assez impressionnant, de lapidation par exemple, d'incarcération, d'émeutes contre lui, enfin, etc. Et puis il y a un autre problème dans la communauté corinthienne, c'est un problème communautaire. Il y a des tensions qui éclatent dans la communauté de Corinthe. Corinthe, vous savez, c'est une ville toute neuve qui a à peine à peu près un siècle. Hein. En gros, lorsque Paul écrit, ou lorsque Paul la visite, elle a été rasée par des Romains puis reconstruite. Et donc, elle a été reconstruite avec des gens qui venaient de partout. Et c'est devenu une très grosse ville, très très vite, très grosse ville, avec peu de racines finalement. Et donc, la vie à la Corinthienne était connue, d'autant plus que le culte d'Aphrodite, Aphrodite était la déesse tutélaire de la ville de Corinthe. Donc, la communauté corinthienne est un petit peu à l'image de la ville, légèrement remuante, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette ville, dans cette paroisse? paroisses, il y a des courants judéo-chrétiens hein, qui disent qu'il faut appliquer la loi absolument. Il y a des, je vais dire, des courants pentecôtistes hein, qui annoncent le montanisme du deuxième siècle, c'est-à-dire bon, des effusions de l'esprit qui sont un petit peu désordonnées. Et puis il y a la gnose qui, évidemment, s'installe un peu partout dans le bassin méditerranéen. Donc il y a tous ces courants qui sont là, qui font que bien, il faut remettre de l'ordre, il faut éviter le chaos à tout prix. Hein, c'est la parole de Dieu, elle est créatrice en mettant de l'ordre un minimum dans les choses, en mettant les choses comme elles doivent être. Alors Paul parle donc de ce qu'il a fait et il parle de cette écharde qu'il a dans la chair. Hein, on ne sait pas très bien, je peux vous dire que dans des commentaires sur l'Épître aux Corinthiens, l'écharde dans la chair de Paul fait couler beaucoup d'encre parce que chacun veut savoir quelle est cette écharde, cette maladie qui le fait souffrir constamment. Est-ce que c'est une maladie physique, psychologique, on ne sait pas. Dans tous les cas, il est certain que Paul était quelqu'un de très troublé. Quand on lit ses lettres, on voit qu'il est hyper émotif, hyper sensible, voire coléreux presque. Donc c'est un personnage qui est peut-être difficile à saisir finalement, mais qui porte certainement une souffrance en lui. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette écharpe qui est dans la chair lui évite tout orgueil. Il ne peut pas dire, vous voyez, je suis un super gars, j'ai une écharpe, alors est-ce que c'est une erreur théologique, on ne sait pas. Voilà. Dans tous les cas, Jean Calvin relève la chose et il souligne que, bon, si Dieu l'a fait, c'est précisément pour que, comme le dit Paul lui-même, on ne puisse pas, s'enorgueillir d'être au service de Dieu. Être au service, ça n'est pas, c'est fait pour servir, comme son nom l'indique, et non pas pour être servi ou je ne sais pas pourquoi. Voilà, alors dans cette lettre, dans tout ce dont je viens de parler, là, il y a ces deux passages qui me semblent particulièrement intéressants. C'est la lettre qui tue l'esprit qui fait vivre, bien sûr, et puis cette phrase « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse ». Alors, je crois qu'il y a une chose qui est importante à souligner, c'est que jamais Jésus, Paul ou un autre auteur du Nouveau Testament n'a remis en cause la loi. La loi, c'est la lettre. Alors, Paul joue un petit peu sur les mots en disant ben, la lettre, c'est la communauté. Et je crois que c'est un grand honneur d'être la lettre de Dieu, ce qui nous concerne aussi, évidemment, et qui nous responsabilise. Et en même temps, il joue sur le fait que la lettre, c'est la loi, bien évidemment. Hein? Alors, elle est parole, cette loi, elle est parole, mais une parole un peu particulière, parce que les fameuses 10 paroles, on appelle les 10 commandements, c'est le seul texte qui est réputé être écrit par le doigt de Dieu sur la pierre. Et il y a un autre écrit fait écho à cela, c'est lorsque le doigt de Jésus écrit sur le sable dans l'épisode de la femme adultère dans l'évangile de Jean. Hein, il y a des parallèles comme cela qui se font, et là il s'agissait dans un cas de sauver le peuple, de lui donner la loi, et dans l'autre cas de sauver une femme qui allait être lapidée. Donc vous voyez qu'il y a des parallèles qui sont quand même intéressants, mais la loi, vous voyez, c'est le seul écrit qu'on ait de Dieu, ou réputé comme tel. Alors ces 10 paroles parlent de Dieu, de Dieu comme étant unique d'abord, et ça je crois que c'est tout à fait intéressant. Au début de l'aventure, dans les textes fondateurs, et il est bien placé tout de suite cette idée qu'il n'y a que Dieu pour Israël et qu'il n'y en a pas d'autre, véritablement pas d'autre, il n'y a pas la place. Et donc les prophètes vont emboîter le pas et continuer à la suite de Moïse à prêcher le Dieu unique. C'est un Dieu de liberté aussi, un Dieu qui libère. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Hein, je crois que le monde de la Bible, c'est un monde de la liberté, de la responsabilité. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, finalement. C'est pas du tout ce qu'en disent les gens qui sont plutôt contre le christianisme, avec des raisons évidentes, parce que dans l'histoire, le christianisme a souvent dérapé, mais qui ne l'a pas fait. Souvent fustige le christianisme et l'écriture en disant, voyez, ceci, cela, en sortant les versets de leur contexte, et choses comme ça. Il n'empêche que la Bible est un livre de liberté. dire. Et c'est un livre qui dénonce l'idolâtrie. Lorsque Dieu dit, voilà, je suis le seul Dieu, il dit aussi, faites attention, ne faites pas de moi une idole, ne prenez pas le nom de Dieu en vain. C'est quelque chose qui me semble tout à fait essentiel, surtout dans la modernité, alors que nos églises sont souvent face à face avec d'autres églises qui sont plutôt intégristes, etc., et qui ont tendance à mettre le bon Dieu à toutes les sauces, si je puis dire. Et puis il y a ce commandement du sabbat qui est tout à fait extraordinaire, qui lève la malédiction adamique, hein, tu ne travailleras plus 7 jours sur 7, tous les jours de ta vie, mais il y a un jour de repos, c'est un jour de récréation, un jour d'évaluation aussi, ça je trouve ça intéressant, puis un jour de contemplation. Et aujourd'hui, par exemple, alors qu'il fait très très beau et que nous pouvons sortir un petit peu, eh bien je pense qu'on peut contempler la nature et en profiter largement pour rendre grâce à Dieu pour cette nature qui est souvent malmenée par les êtres humains. Alors Dieu organise aussi la vie sociale et religieuse. Vous savez que la Torah, la loi, compte en fait 613 commandements, hein, jusque dans les moindres détails de la vie, tout est organisé. Alors tout ça peut être utile pour vivre, il a été, il est toujours pour le monde hébreu et juif, mais celui qui fait de la loi un absolu introduit la peur d'être hors la loi. Si la loi c'est véritablement le chemin du salut, malheur à ceux qui n'empruntent pas ce chemin, qui marchent à côté, hein, qui sont hors du chemin, ils sont hors la loi, et ils sont du coup jugés et condamnés, ils sont peu fréquentables, d'ailleurs, ils ne suivent pas la loi, ils ne sont pas dans la pureté, on ne peut pas être avec eux. Et dans ce cas-là, on introduit le jugement qui est porté sur autrui, et au final, on risque de vivre un repli sur sa propre peur, la peur d'être hors la loi, un repli sur son ego qu'on veut sauver à tout prix, et puis aussi peut-être un repli sur un orgueil religieux qui pointe son élan, qui permet de regarder les autres, hein, de sa supériorité, parce qu'on suit la loi, parce que on fait ce qu'il faut, et ainsi de suite. Hein, voilà, on est sûr du salut, et on fait partie de ceux qui vont être sauvés. C'est un discours binaire, il y a ceux qui sont dans la loi, ceux qui sont hors la loi. C'est un discours qui est simple, c'est un discours qui marche très bien, qui flatte l'orgueil de ceux qui entendent le discours. C'est en fait un discours qu'on trouve dans tous les sectes, hein, qui est porteur d'une dynamique de mort. C'est le problème des œuvres, c'est le problème des intégrismes, ni plus ni moins. On dirait ces intégrismes dans des périodes d'incertitude fleurissent assez facilement parce que la peur fait surgir des réactions qui font qu'on cherche où s'appuyer, savoir où est l'issue et ainsi de suite. Et donc des promesses ainsi faites, très très simples, de salut, et bien ça marche assez bien. Or l'Esprit de Dieu c'est pas du tout ça. L'Esprit de Dieu c'est la créativité. Quand on commence la Bible c'est fabuleux parce qu'on commence tout de suite par la création. Dieu crée. Il crée, et c'est la liberté qui est là tout de suite. Et c'est, évidemment, on ne peut pas créer sans un minimum de liberté. Et puis cette liberté, elle est donnée au peuple dans l'Exode, ce qu'on vient de voir. Elle est donnée aussi au peuple dans l'Évangile, ce qui clairement, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, la parabole du berger, là que j'étudie avec les catéchumènes en ce moment, hein, Jésus appelle des brebis, elles peuvent sortir ou entrer, elles passent la porte. Et donc, elles sont amenées dehors, il y a un vent de liberté dans cette parabole extrêmement célèbre, hein, qui souffle, est tout à fait extraordinaire. Et je crois que c'est le fait d'aimer, tout simplement. C'est le fait d'aimer. L'Esprit de Dieu, c'est le pardon aussi, c'est le pardon qui libère de la peur de la vengeance, la peur de l'autre, etc. Hein, c'est le Saint-Esprit qui est là pour éclairer, pour révéler. C'est le Saint-Esprit qui guide les gens vers les captifs ou les infirmes comme les aveugles. C'est ce que dit déjà très longtemps avant Jésus, le prophète Ésaïe, comme on vient de le lire tout à l'heure. L'Esprit Saint, il est là, il relève, il recolle les morceaux, hein, par le pardon, il rétablit la communication, si je puis dire. Il juge peut-être, soit qu'il ne faut pas nier le jugement, parce que le jugement est intéressant, il nous permet d'être évalués, donc de nous corriger, mais il ne condamne pas. C'est ça qui est intéressant. Hein, la réprimande, le jugement sont là pour être constructif. Et non pas là pour nous enfermer, nous faire peur. Bien au contraire, hein, c'est quelque chose qui est là pour nous relancer dans l'esprit de Dieu. Vous êtes pardonné, et alors allez-y et faites ce qu'il faut faire. Hein, l'Esprit Saint est surprenant, déjà par le pardon, c'est déjà une surprise, mais on est quand même très surpris quand on lit Samaritain, qui est une des paraboles majeures de l'évangile de Luc, là pour le coup, de voir que l'exemple même du salut, ça passe par le Samaritain qui est un hérétique pour les Juifs. Hein, donc c'est quand même assez curieux de le voir. De même, on est souvent choqué. Comme nous on était des jeunes lorsqu'on a étudié d'ailleurs par la parabole du fils prodigue, par ce père qui accueille ce fils qui est parti, qui a dilapidé l'héritage, et le père qui l'accueille à bras ouverts. Finalement, il y a de quoi être remis en cause dans ses idées, dans l'ordre qu'on a des choses, et ainsi de suite. Je crois que l'Évangile, par la puissance de l'Esprit Saint, nous arrache à nos certitudes, elle crée, l'Évangile crée en nous un dynamisme et de la vie. Finalement, c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce qui nous est offerte par Dieu. Hein, cette grâce qui est évidemment fondée sur le pardon, comme son nom l'indique, cette grâce, elle est là pour le monde entier, aussi bien pour les puissants que pour les gens qui sont modestes, et aussi bien pour le premier de la société que pour le dernier. Alors, quand il écrit aux Corinthiens, il parle de la communauté, Paul, il parle de la communauté de manière formidable, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, la lettre, c'est vous, ma lettre à moi, c'est vous, c'est précisément ceux qui écoutent la prédication, si cette prédication est évidemment, normale, elle va dans le sens du message de l'Évangile, alors vous êtes la lettre. Véritablement la lettre de l'esprit dans le monde, être témoin de cet esprit qui est là et qui s'ouvre dans le cœur de chacune et chacun d'entre vous, c'est-à-dire quelle que soit votre situation dans l'Église, que vous soyez arrivant là depuis longtemps, de famille de Huguenots bien tentée, je ne sais pas très bien moi, enfin voilà, même si vous êtes en marge de l'Église, questionnant, doutant et ainsi de suite, peu importe, vous êtes la lettre, véritablement le signe de l'esprit. Alors c'est Paul qui écrit cette lettre aux Corinthiens, et Paul quand il écrit, lui il est complètement réduit physiquement, moralement, il le dit, donc il a été lapidé, mis en prison et ainsi de suite, or il est là, il est presque plus rien, et paf, il y a cette parole qui est là, qui va l'atteindre dans sa souffrance, dans la chair, cette écharpe qui est là dans la chair, qui le fait souffrir, qui le pose problème, visiblement, puisqu'il demande à Dieu trois fois d'être libéré de cette écharpe. Il dit « Ma grâce te suffit. Paf. Ma grâce te suffit. Point. Voilà. Hein. » effectivement, ça veut dire que toi, Paul, tu as reçu le don d'esprit, véritablement, et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Alors, on pense dans cette souffrance de Paul, cette réponse qu'il a de Dieu, la grâce, on pense aussi à Jésus, évidemment, lequel Jésus, réduit à néant, garde toute sa confiance en Dieu. Et il a la grâce, il est la grâce de Dieu. Il est la grâce de Dieu, il garde le contact avec Dieu. Ne romps pas avec Dieu malgré la souffrance extrême dans laquelle il est sur la croix. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et puis, il pardonne au monde. Il garde contact avec le monde. Il est la jonction entre Dieu et le monde dans la souffrance extrême qui va le conduire dans les minutes qui suivent à la mort. Il y a quelque chose là d'essentiel. Il y a quelque chose qui est essentiel, qui est le roc. Quand on dit il va falloir bâtir sur le roc, la maison, c'est effectivement dans l'évangile de Matthieu, bâtir sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire tout un recueil de prédications de Jésus, dont on a vu quelques lignes la semaine dernière, avec la règle d'or par exemple, faites aux autres ce qu'on voudrait qu'on vous fasse, etc. Vous êtes celle de la terre, la lumière du monde, et ainsi de suite, le Notre Père. Ça, c'est dans l'évangile de Jean-Mille de Roc, c'est véritablement la grâce. La grâce qui fait qu'on est toujours en contact avec Dieu. Parce que même si nous perdons, si nous nous éloignons, Dieu fait le chemin pour nous retrouver. De telle sorte qu'on puisse être avec Dieu et qu'on puisse être aussi avec les autres. Que reste-t-il? Que reste-t-il quand il ne reste plus rien? Plus rien du tout, hein, si ce n'est le fait d'être bien heureux, parce qu'il n'y reste que la parole qui est présence de Dieu, qui est l'Esprit. La grâce te suffit, la grâce suffit. Elle est l'amour de Dieu qui s'exprime. Elle signe cet agapé et ses effets de l'amour de Dieu, de cet agapé de Dieu. Car la grâce, c'est pas statique, c'est pas quelque chose qu'on donne. Bon, là, quand même, c'est très bien. Bon. Mais la grâce, c'est un élan de Dieu vers l'homme. C'est cette dynamique qui fait que Dieu est allé vers les hommes, va vers les hommes. Et cette dynamique, elle est en nous. Elle est en nous et elle fait vivre, précisément. Elle répare, elle donne l'espérance, elle pardonne. C'est du reste ce que dit déjà, bien avant Jésus, Esaïe, hein, qui voit son Dieu délivrer les maudits. Hein, les malades, les aveugles étaient vus comme étant maudits, évidemment les gens qui sont en prison aussi. Dieu fait vivre les gens, même les plus petits, même ceux qui sont des parias de la société, comme on l'a vu. La grâce donne l'énergie. Elle donne l'énergie et Paul en est l'exemple. Paul qui est souffreteux, qui est malade, qui n'est pas bien dans sa peau ou dans sa tête, qui demande d'être délivré par Dieu, il a une énergie extraordinaire ce type. Enfin, et tous ces voyages qu'il a fait de Jérusalem à Rome en passant par la Syrie, Damas, en passant par la Phénicie, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, enfin c'est complètement dingue. Je veux dire, hein, il est allé à pied par les routes qu'empruntaient les légionnaires, les commerçants, il est allé en bateau, il a essuyé la tempête et autre chose. C'est-à-dire, il a une énergie, mais qui est inépuisable, cet homme qui, pourtant physiquement et psychologiquement, se révèle comme étant extrêmement fragile. La grâce apparaît à ce moment-là en toute puissance dans la faiblesse, précisément. La force, la puissance, le clinquant, le bling-bling, comme on dit, comme on disait il y a quelques années, ce sont des faux-nés, en fait. Très souvent des faux-nés, pas toujours, mais très très souvent des faux-nés qui camouflent quelque chose, qui camouflent d'abord la servitude dans la tentation de l'orgueil d'être quelqu'un d'imposant. Je veux dire, voilà, ce sont des gens qui, sur le sommet du temple, ont entendu le diable leur dire « si tu me sers, ben, tu auras toute la richesse du monde ». En gros, c'est un petit peu ça, tu auras tous les pains que tu pourras distribuer, tu pourras manger comme tu voudras, et ainsi de suite. Je veux dire, ça signifie souvent... cet excès, un égo qui est malade, la peur et l'orgueil. On a vu ça hier quand on parlait dans l'étude biblique sur les questions d'argent dans la Bible. Ça peut être une bénédiction, bien sûr, d'avoir de l'argent, mais c'est souvent lorsqu'on se laisse aller à la fascination de la puissance de l'argent et de la richesse, c'est le signe de quelque chose qui ne va pas au fin fond de soi et qu'on essaye de recouvrir comme on peut, hein, d'une manière ou d'une autre. C'est souvent le signe d'un orgueil très grand. Voilà. La force, elle est peut-être très bien comme ça, la force humaine. Je précise, elle peut être très bien comme ça, bon, en surface, hein, mais c'est l'arme du faible, très souvent. Mais dans tous les cas, jamais la force humaine, jamais elle ne peut imposer l'amour, parce que l'amour deviendrait, si on l'imposait par la force, une seconde loi. Je crois que Bizet, dans Carmen, fait chanter à Carmen, l'amour est enfant de Bohème, il n'a jamais connu de loi. Ça vous réveille de quelques souvenirs, je pense. Mais je crois que Bizet a parfaitement raison. L'amour, c'est la liberté, bien sûr, va de soi. Mais dans la faiblesse, la puissance de Dieu est rendue d'autant plus visible et essentielle pour vivre. Combien de malades, combien de détenus, des gens fatigués, ont vécu de l'esprit, entendu une parole dans l'écho de leur cœur ou dans le silence de la nuit. Dire lorsque il n'y a plus rien, lorsqu'on n'entend plus rien, lorsqu'on est fatigué, qu'on est vraiment au bout du rouleau, dire il y a souvent une petite musique qui est là, ou le sentiment d'une présence qui est là et qui fait vivre. C'est le Messie, l'Esprit, mais qui n'éteint jamais la mèche. C'est ça, cette vision d'Ésaïe est fabuleuse. hein, et qui ne brise pas le roseau qui est ployé. C'est quelle vision, quelle vision que Jésus va vivre lui-même lorsqu'il va aller vers les malades, les lépreux, les paralysés, les aveugles, les sourds, les fous aussi, hein, les démons, mais aussi vers les riches qui peuvent avoir des problèmes et qui le questionnent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le salut, maître, etc. Enfin bref, avant tout est bien, il dit suis-moi, ou voilà, ou alors fais attention à la parabole du riche et de Lazare, et ainsi de suite. Enfin bref, je veux dire, non, Jésus n'a jamais fait craquer le roseau, ni jamais éteint la mèche qui s'étiole, au contraire. Au contraire, il entretient le feu et il redresse la plante qui est en train de se sécher, si je puis dire, de ployer. Voilà. Hein, c'est le serviteur souffrant qu'on va retrouver en Jésus, évidemment, qui pardonne, qui réconcilie, qui déculpabilise, évidemment. Et déculpabilise et qui montre sa force dans la faiblesse. Et ça, je crois que la force de Jésus, elle s'est exprimée précisément dans la faiblesse. C'est-à-dire, quand tu regardes à Dieu, eh bien, regarde la croix et tu verras Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu hein, qui n'est pas du tout le Dieu du côté des forts, des puissants, du côté de la puissance romaine, qui pourtant est considérable, n'est pas du côté de la puissance du temple, qui était très très riche. Me dire, non, c'est celui qui meurt rejeté par les autres. Son trône, qui est la croix, c'est le trône qui exprime la faiblesse de Dieu, et qui dans cette faiblesse dit toute la force de Dieu, c'est la logique du royaume, finalement. Et je voudrais quand même signaler ceci, quand même. Lorsque Paul écrit, qu'il est dans la situation dont on vient de parler, donc remise en cause dans sa propre communauté, il est obligé de pardonner l'offense, il est obligé de dire voilà ce que j'ai fait, et ainsi de suite, j'ai une écharpe, enfin bref, eh bien, on s'en souvient encore de Paul. On s'en souvient encore. Il est dans les mémoires de centaines de millions d'êtres humains aujourd'hui, 2000 ans après. Mais lequel d'entre vous, chers auditrices, auditeurs, est capable de dire quel était le procurateur romain à l'époque de Paul dans la Judée, l'homme qui avait le pouvoir? Ouais, je vais vous le dire, c'est Antonius Félix. Cherchez pas, hein. Moi-même, je ne savais pas. Et évidemment, si je vous donne ce nom, c'est parce que en écrivant ce texte, bien, j'ai bien cherché la référence, ça va de soi. Je dis, mais voyez, c'est intéressant de voir que l'homme puissant, l'homme fort, comme on dit, hein, de l'époque en Judée, est complètement oublié par tout le monde, alors que Paul, le souffreteux et le malade, celui de l'écharpe dans la chair, c'est celui dont on se souvient. Et je pensais, en écrivant ces lignes aussi, à l'homme qui, pendant des années, a été le plus populaire de France. Et dans les sondages qui sont toujours un petit peu bidons, hein, faut dire les choses comme elles sont. Mais bon, c'est toujours intéressant, surtout quand ça se répète année après année. Eh bien, l'homme le plus populaire, c'était le fondateur des Compagnons d'Emmaüs, l'abbé Pierre. Voilà, pendant des années. Moi, je trouve que c'est signifiant, parce que pendant des années, on a eu des hommes célèbres, on a eu des écrivains, des cinéastes, des présidents, des hommes politiques, et c'est là tout ce qu'on veut. Mais le plus populaire, c'était l'abbé Pierre, celui qui avait renoncé à tout pour s'occuper des pauvres, finalement. Hein, et je trouve ça intéressant. Quels sont les grands protestants du XXe siècle? On va, évidemment, on va citer Karl Barth, on va citer des gens comme ça, et quelques autres, mais on va citer Schweitzer. On va citer Schweitzer pourquoi? Est-ce que vous allez le citer pour sa théologie, qui est quand même très intéressante, du reste, je peux vous le dire, je peux en témoigner, bien sûr. Vous pouvez citer Schweitzer pour l'homme musicien qu'il était, c'était un très grand musicien, un très grand organiste en particulier, hein, ou est-ce qu'on va le citer parce qu'on a retenu de lui qu'il est allé à l'embaréné sur les bords du fleuve Ogowé au Gabon? Allez, hein, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là qu'on voit que la force de Dieu s'exprime dans la faiblesse, dans le service, lorsqu'on va vers les autres, lorsqu'on partage finalement. Non, et non pas lorsqu'on cherche la puissance, hein, non pas lorsqu'on cherche un nom célèbre, etc. J'aime bien regarder aussi dans cet exemple, dans les journaux People, c'est toujours intéressant. Alors c'est complètement nul, hein, de dire les choses comme elles sont, je m'excuse pour les rédacteurs de ces journaux, s'il y en a parmi vous, mais franchement c'est d'une légèreté incroyable. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces gens dont on parle, là, si on prend des numéros anciens, si on prend des numéros un peu anciens, ils sont quasiment tous oubliés. C'est assez curieux de voir ça. La force de Dieu, elle s'exprime dans la faiblesse. et s'exprime dans le silence de la chambre d'un malade, et s'exprime dans le silence de la chambre d'une personne qui est dans une EHPAD, et puis qui se réveille le matin en louant Dieu, finalement, d'être encore là, hein, ni plus ni moins. Alors c'est intéressant cette épître aux Corinthiens. Elle est intéressante, comme toutes les épîtres de Paul d'ailleurs, même si parfois ils nous semblent bien arides à lire, bien si, même si parfois nous ont bien des contresens lorsque nous lisons les épîtres de Paul, mais peu importe, je veux dire, Paul il a écrit ses lettres à ses communautés. Ses communautés ont gardé ses lettres, les ont partagées, les ont recopiées, et elles sont arrivées jusqu'à nous. Ce qui fait que Paul nous parle, il nous parle directement. Il nous parle en nous disant, voilà, vous êtes la lettre de l'esprit, vous êtes le vivant, vous êtes les hommes de la liberté, les hommes de la fraternité, les femmes et les hommes de la fraternité, finalement. Chacun a un rôle à jouer, à aller les uns vers les autres, à témoigner, finalement. Nous laissons la somme. Une responsabilité formidable et qui n'est justement pas fondée sur la puissance, mais qui est fondée sur l'engagement personnel, chacune, chacun à son niveau, véritablement. Alors Paul dit, vous voyez, moi j'ai souffert, etc. On a l'impression qu'il est masochiste à un moment donné, mais pas du tout. Je veux dire, il n'est pas du tout masochiste, il est au service. Il est au service de Dieu, au service de la parole. C'est pour ça qu'il accepte toutes les difficultés qu'il traverse et qu'il finalement il va les affronter pour faire ressortir l'essence de sa prédication. Alors l'essence de sa prédication, c'est l'amour de Dieu pour lui. C'est l'amour de Dieu pour ses Corinthiens qu'il aime tant. Et aussi c'est l'amour de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Amen. Oh, 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 oh amis, je vous invite à prier, à entrer dans la prière, comme on dit. Parfois, nos forces nous cachent l'essentiel. Et repliés sur nous-mêmes, nous ignorons le monde, les autres et toi. Pourtant, questions, détresse parfois, doutes, faiblesses sont toujours là, refoulées au plus profond de nos existences. Père, aide-nous à vaincre le mal tapis en nous, comme le dit l'apôtre. Aide-nous à rejoindre nos semblables, à voir leurs qualités pour mettre ensemble nos forces au service d'une société de justice où chacun puisse trouver sa juste place. Père, nous te rendons grâce et prions pour ceux auxquels nous pensons, comme ces enfants et leurs catéchètes rencontrés à Éphèse un jour, qui parcouraient plus de 100 km pour entendre ta parole, ou encore cette femme atteinte d'un cancer généralisé qui, au seuil de la mort, se relève à la lecture de la Bible, et ce détenu qui devient pasteur, et tant d'autres qui ont mis ta force en leur faiblesse, éclairée par la grâce. Bien sûr, nos pensées vont vers les malades, les exclus, les immigrés, les endeuillés, vers tous les anonymes qui luttent contre les fléaux du monde. Et puis il y a ces enfants, tous ceux qui reprennent le collège à très bientôt, et les autres, ceux qui parcourent des kilomètres à pied pour aller à l'école dans les pays du tiers-monde. Père, veille sur les enfants du monde, le royaume est à ceux qui sont comme eux. Pardonne notre prière toujours incomplète. Mais dans nos cœurs, nous présentons parents et amis, des proches et des lointains. Notre Père, toi qui es au cœur de nos existences, ton nom est magnifique, énergie et vie. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le pain soit en partage sur toutes les tables du monde. Que ta parole nourrisse chaque être humain. Donne-nous la force de pardonner comme tu nous pardonnes. Toi qui ne nous laisses jamais seuls face aux tentations du mal, du désespoir et de la peur. À toi, notre Père, le règne de l'amour, la force de l'esprit, la lumière de ta parole, au siècle des siècles. Amen. Voilà, mais écoutez, j'espère que, avec toutes vos forces, qui sont bien souvent de la faiblesse, mais qui, devant Dieu, peuvent être toujours utiles si elles sont mises au service de la parole, au service de l'Évangile, au service de Dieu au final. Ben, j'espère qu'avec toutes vos forces, vous allez pouvoir louer Dieu et être les témoins de cette parole de vie tout à fait extraordinaire. J'espère que la grâce qui vous touche est là pour être l'essentiel de votre vie, bien sûr, pour que vous puissiez vivre dans l'espérance, dans la joie et la reconnaissance. Soyez bénis de Dieu, soyez certains de cette bénédiction. Elle a été acquise par Dieu qui nous l'a offerte, évidemment, mais acquise par les prophètes qui ont su la transmettre, la dire et la redire. Elle a été acquise par Jésus-Christ, il a vécu jusqu'à la mort. Elle a été acquise par les apôtres et tous les serviteurs des églises qui ont transmis cette grâce, finalement, cette bénédiction génération après génération. Oui, soyez bénis de Dieu, allez en paix en sa présence, dans la joie et dans l'espérance, maintenant et pour toujours. Amen. Après notre morceau de musique, je vous donnerai deux ou trois annonces.
Down.
Voilà, vas-y.
Voilà, alors, j'ai trois annonces à vous faire pour la semaine qui vient. D'abord, jeudi prochain, c'est l'Ascension. Et donc, on avait décidé avec le conseil presbytéral de remettre un culte le jeudi de l'Ascension. Voilà, donc c'est un peu particulier puisque nous sommes toujours dans le confinement plus ou moins sévère, mais voilà, ça n'empêche pas que de faire ce culte, de commencer ainsi. Donc jeudi prochain à 10h30, il y aura un culte dont le thème sera l'Ascension, pour fêter cette fête. Le lendemain, le vendredi 23, si je ne me trompe, il faudrait bien regarder le site de la paroisse, parce que normalement, on a un atelier de philosophie à 18h, et cet atelier est animé par Bernard Piètre. Voilà, donc il y a des habitués, mais à chaque séance, on a un thème différent, donc vous n'avez pas besoin d'être un habitué du groupe pour venir prendre le train en marche, si je puis dire. Voilà. Ensuite, troisième annonce, c'est pour samedi prochain à 10h30. Eh bien, samedi prochain à 10h30, nous nous pencherons sur la question suivante, des femmes dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est un sujet qui est quand même assez vaste. Voilà, bon, enfin bon, on va essayer de déblayer un petit peu le terrain pour voir un petit peu comment ces dames ont été perçues dans la Bible. Il y a quand même des surprises par rapport aux idées reçues, ça je peux vous certifier. Voilà, ben écoutez, j'espère qu'on se reverra, ou qu'on s'entendra, si je peux dire, à l'une ou l'autre de ces réunions. J'espère qu'on n'aura pas des problèmes que j'ai eu avec la technologie, je ne sais pas ce qui s'est passé, puisque bon, hier ça marchait très bien, aujourd'hui ça n'a pas marché de mon côté. Voilà, heureusement que Antoine est là pour veiller au grain, si je puis dire, sans lui que ferions-nous, donc on peut le remercier plus que chaleureusement. Voilà, mais dans tous les cas, j'espère que vous allez tous très 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 bien, vous allez profiter de cette belle journée, et puis qu'on se reverra très très bientôt. Voilà. Eh bien, écoutez, bon dimanche.